Salut, ici Plafond Zanetti et merci d'écouter les podcasts de Garage. Venez nous suivre sur Facebook et Twitter, c'est un excellent moyen d'être au courant lorsque nous sortons un nouveau podcast. Vous pouvez aussi nous suivre sur Spotify, YouTube et Apple Balado. En fait, l'application sur laquelle vous nous écoutez présentement, n'oubliez pas de vous inscrire au podcast de Garage. Pour ceux qui aiment vraiment ce qu'on fait, si vous voulez nous encourager, faire la différence, abonnez-vous à notre Patreon. Pour seulement 4$ par mois, vous avez du contenu exclusif et un lien direct avec nous. De notre côté, ça nous aide à couvrir toutes nos dépenses et comme j'aime bien dire, ça paye la bière. Maintenant, avant de débuter le podcast, appuyez sur pause, allez nous donner 5 étoiles sur l'application que vous nous écoutez. Ça a l'air de rien, mais pour nous, c'est important. Encore une fois, merci d'être là et bon podcast.
Bonjour tout le monde, ici le prestateur. Ayant un petit conflit d'horaire cette semaine, nous n'avons plus enregistré de podcast, donc on va vous sortir un extrait. Ben pas un extrait, on va vous sortir un podcast en cuillère entre plafond et prestateur qui sont seulement accessibles en temps normal sur Patreon pour nos membres. Donc on vous donne un petit teaser de ce qu'on fait sur notre Patreon avec, dans cette cas-ci, c'était un invité qu'on avait qui était Marteau Napoli. Donc, si vous aimez ce podcast-là et vous voulez en entendre d'autres en cuillère entre plafond et prestateur, ainsi que des podcasts qu'on fait avec notre ami Frank le dédomiseur qui s'appelle le dédomiseur de garage, ben, abonnez-vous à notre Patreon. Cherchez podcast de garage sur Patreon. Merci, bonne écoute.
Mais quand tu se rencontres dans le garage, il se colle en cuillère. En cuillère, entre Plafond Zanetti et le prestateur chronique. Il y a des invités des fois aussi.
Ok, bonjour tout le monde, bienvenue en cuillère entre Plafond et prestateur. Aujourd'hui en cuillère, on reçoit nul autre que Marteau Napoli.
Oui! Salut!
Mais une belle présentation, ça. C'est pas la première fois que tu as fait.
Ouais, wow. C'est la deuxième. J'ai le problème technique le premier coup. Ouais. Mais c'est sûr que j'ai pas ton talent pour te présenter toi-même, là, mais en tout cas, j'essaie de faire je fais mon mieux, comme on dit.
Ouais, comment on dit ça? Marteau Napoli!
Napoli!
La botte, la Flandre, les Flandres. Comment ça va, vous autres, mes petits amis, dans le lit, la cuillère, sans condom, c'est non?
Sans condom, c'est non. C'est moi qui est en arrière, puis prestateur est en avant, puis on est content que tu sois au milieu avec nous autres aujourd'hui, Marteau. Merci de prendre ton temps pour venir jaser de cartes d'hockey.
T'es très occupé, en plus, que tu nous disais tantôt, c'est en site, fait qu'on apprécie que tu prennes le temps.
Mais c'est comme capoté, là. J'ai comme plein de tournages, plein de trucs de podcasts, YouTube, du carnaval, mais toutes des affaires le fun. Fait que non, c'est genre de trucs qui pourraient me brûler ou ben non, quand je sois fatigué, mais je prends plus de café, plus de Baileys, puis j'ai pas de trouble.
Baileys, ouais, ben je te l'ai fait remarquer tantôt. Là. On est le soir, puis je t'ai dit, sur le café à cette heure-là.
Tim Hortons, Baileys.
On n'ira pas de la nuit.
Ouais, avec Baileys aux amandes, c'est keto, il n'y a pas de sucre, fait que ça, c'est bon, mais. Comme mon plan, je vais toffer une bonne partie de la nuit, faire un petit peu de job, préparer d'autres trucs de podcast, des bebelles aussi pour avec Marie-Pierre puis Reg, avec toutes nos répliques qu'on a faites au carnaval chez Marteau. Je vais faire d'autres visuels puis d'autres patentes. Là, fait que, je dors pas beaucoup. J'aime Picsou, le super-héros. Fait que genre, je vais partir pour de la job cette nuit.
Mais tu dors pas beaucoup, mais d'être occupé de même, tu sais, ça tient debout pareil. Tu dis je vais être brûlé, mais d'un autre côté, ça, c'est de quoi qui t'alimente, ça te fioule au bout, ça là.
Ah oh, vraiment, je jokais, sérieux, tu dis je vais être brûlé parce que je me dis. Admettons que quelqu'un de normal serait fatigué mort pendant une semaine après, là, mais sans niaiser, là, fatigué mort, c'est rare que ça m'arrive. Admettons, si je fais une grosse trade de. C'est arrivé souvent à l'époque, des 4 mois, 7 jours sur 7. Nanana. Après ça, l'été arrive. Là, sérieux, des fois, je peux être une ou deux semaines vraiment à rien faire. On dirait que quand je me repose, ça va être vraiment 2 semaines. Après ça, je pars décoller 2 mois non-stop. C'est genre, j'aime beaucoup ça, le 7 sur 7 avec les spectacles et tout. Après ça, quand je suis off, je suis vraiment off. Là. C'est pour ça que, comme là, aujourd'hui, je veux pas de médaille, là, mais je vais probablement avoir travaillé 20 heures sur 24. Puis genre, j'aime ça, puis c'est facile, c'est le fun, c'est ça.
Moi, je comprends un peu ce que tu dis, parce que tu sais, depuis qu'on fait les podcasts, là, tu sais, je fais beaucoup de techniques, puis de montage, puis de vidéos, puis plein de gogus, puis que, des fois, j'ai de la misère à aller me coucher. Tu sais, je vais me coucher parce que le lendemain, je travaille, là, mais si, tu sais, il faut que je me couche, puis les enfants le lendemain, puis tout, mais... Tu sais, j'ai comme, si, ça me tente pas d'arrêter, tu sais, là, je suis comme dedans, puis je suis en processus, puis ça avance, puis on dit, je suis comme pas arrêté, fait que c'est comme pas de travail, là, je comprends ce que tu veux dire des fois quand tu dis que t'es dedans, puis c'est dur d'arrêter, là.
Puis vous autres, je sais pas si ça vous fait ça et tout, j'ai un système de liste, puis là, on dirait, comme là, aujourd'hui, c'était comme, OK, préparer SoundCloud, sortir Damien, envoyer après ça les posts à préparer que Sophie va programmer, après ça, préparer une nouvelle trame pour les trucs YouTube d'Eduardo. Fait que là, je me monte une liste dans ma tête. Après ça, il y a un moment donné, je panique. Là, il faut que je l'écrive, cette liste-là. Ouais. Après ça, il y a des listes de des listes aussi qui peuvent arriver. Puis après ça, ça m'occupe pendant toute la semaine. Un système de liste. Ça, c'est ça qui fait que toi aussi, probablement, tu ne fais pas dodo. C'est tout à des tâches.
Ah, ben, des fois, j'oublie des affaires, là, mais je ne me fais pas de liste. Faudrait que je m'en fasse.
Tes listes, t'es fait sur papier?
Comme je disais, je les starte dans ma tête en me les répétant. Que je suis capable de retenir, en mettant 4 mots-clés. Puis là, je me connais, je suis trop lâche. Maintenant, je suis trop lâche pour aller les écrire. Fait que là, je suis trop dedans. Maintenant, je suis trop concentré là, dans mon truc YouTube. Nanana. Là, après ça, je vais aller les écrire. Là, après ça, quand il y a trop de feuilles, trop de listes, il va y avoir une liste des listes, la liste des trucs à faire sur le web, les listes qui ont rapport à mes emails, la liste qui a rapport avec le sport, la liste qui a rapport aux cartes. C'est comme ça.
Oh, mais j'utilise Asana. Je ne sais pas si tu connais ça. Là.
Non, pas tout, non.
C'est l'application. Asana, c'est des listes, dans le fond. Tu mets tes tâches, puis là, tu peux les mettre aujourd'hui, tu peux mettre des due dates. Puis, tu sais, quand tu as fini, tu fais juste cliquer dessus, puis c'est facile.
Okay.
Tu peux la modifier,
moi,
tu peux faire des listes dans tes listes, tu peux faire des listes dans tes listes, dans tes listes, tu sais, c'est à l'infini. Là. Moi, je travaille avec ça parce que tu sais, je suis gestionnaire d'une entreprise, puis j'ai comme trop d'affaires à faire, je pourrais jamais me rappeler de tout. Fait que je mets toutes mes affaires dedans, puis à un moment donné, je rouvre mon ordinateur, je vais voir mon Asana, ou même sur mon téléphone, là, tu sais, tout est connecté ensemble. Je dis, j'ai ça à faire, parfait, tout que j'embarque. Si j'ai pas le temps de le finir, ben, je peux aller écrire où est-ce que je suis rendu dans mes commentaires, puis après ça, ben, puis là, ben, vu que j'ai une équipe, ben, j'ai tout mis mon équipe là-dessus. Fait que je peux assigner des tâches. Dire, ben, toi, tu vas faire ça, toi, tu vas faire ça. Tout. Puis ils l'ont reçoivent directement.
C'est une bonne affaire. Autant, tu sais, on se connaît un peu, autant dans plein de trucs. On dirait que je suis tout le temps comme visionnaire, puis je vois vers le futur. Mais mon système de liste marche vraiment avec des crayons puis des feuilles. j'ai peur de sortir de mes feuilles. Je n'ai pas ma feuille avec mes maudits mots et mes maudites listes.
C'est une technique, là. Je veux dire, c'est pas
obligé. C'est de prendre l'habitude, là. Quand tu embarques sur l'habitude avec ton Asana, c'est parce que le téléphone, on l'a tout le temps dans les mains, anyway.
T'as 100% raison. Ouais, vraiment.
Plus dur de le mettre direct là.
Ouais, c'est sûr que
t'as bien raison.
Je te donnerai un cours, Marteau.
Ouais, c'est ça. Tu me fais un mot de zoom pour me l'expliquer.
Un tutoriel, Asana. Tu vas adorer.
On fera un autre podcast sur les tutoriels de Asana, là. Mais à soir, je ne voulais pas parler d'Asana. Usana. C'est-tu Usana ou Asana?
Asana. A-S-A-N-A.
Usana, c'est d'autres affaires, ça. C'est pas les affaires de Tupperware là, ou les produits Usana, je ne sais pas quoi. Là.
Ça anyway, va être correct.
Ce qu'on voulait parler aujourd'hui, c'est quelque chose que bien du monde, sauf Plafond, a déjà fait dans sa vie. Quand on était ticu, qu'on jouait au hockey, puis oui, Bantam, on collectionnait des cartes de hockey. Puis, il y en a qui ont continué, il y en a qui ont arrêté. Moi, j'en ai encore ici des cartes que j'avais quand j'étais jeune. J'ai un bac, là, justement, avec des cartes dedans. Puis, c'était plus hockey dans mon temps. Là. Il y avait moins de basket, tout ça. Là. Mais là, toi, Marteau, je vois des affaires passer sur Internet, des fois, tu vends des cartes de hockey.
C'est pas juste collectionner, là. Puis même, mes plafonds, même Kid, les Oupichi avec la gomme, puis tout, tu collectionnais
ça? Non, j'en ai de quand j'avais 12 ans, là. J'en ai pas mal. J'avais quasiment toute la collection des Simpsons. Je sais que ça n'a pas rapport avec le hockey, mais... mais tu sais, moi, j'ai jamais été un fan de hockey, mais à un moment donné, j'ai collectionné. J'ai Peter Stachny recru, Sergi Fedorov, une coupe de patente de même, là. Des affaires de 30 ans, là.
Sergei Fedorov. Mais moi, c'est comme quand j'étais kid avec mon frère, vraiment là, admettons de 88 à 95, c'était des grosses années pour les collectionneurs partout en Amérique. Ouais. Rappelez-vous, les cartes Pro 7, Opichi premier, Upper Deck. Ouais. On avait tout ça. L'affaire qui est vraiment incroyable, je trouve, c'est que, admettons, pour les 25 dernières années, j'avais jamais retouché à ma collection de cartes. Un peu comme tout le monde, on s'en foutait. Mais le monde des cartes a continué. Puis même, le monde des cartes a beaucoup évolué. Puis qu'est-ce qui est arrivé dans nos années comme TFLO, à partir de 88? Les compagnies de cartes ont surimprimé des cartes. C'est pour ça que Jaromir Jagr, on l'a toutes. Sergei Fedorov, on l'a toutes. On l'avait toutes. Ce n'est pas rare. Et tout, t'as beau avoir Wayne Gretzky Pro 7, 1990, même si tu l'as 1000 fois, à vos 10 cents chaque fois. Tu sais, il n'y a rien à faire avec les cartes de quand on était flo.
Ouais, c'est ça le problème.
C'est ça. Là, tu viens de casser ma bulle. Moi, j'ai dit à un moment donné, je vais sortir ça, je vais être millionnaire.
Ben, la seule affaire qui pourrait peut-être t'aider, c'est que, exemple, avec il y a un peu la pandémie qui a fait qu'il y a un an, tout le monde a ressorti ses cartes. Tout le monde avait comme plus de temps à faire du classement. Après ça, tout le monde, tout à coup, avait comme un 2000 piastres à flamber dans je ne sais pas trop quoi. Et là, les cartes en Amérique du Nord, puis même mondiale, ça l'a vraiment explosé. Là. Mais là, on parle d'exploser. Puis quand je me suis mis à lire tous les articles qui sortaient sur Forbes qui expliquaient que, là, attachez-vous, là, je vais dire quelques bons trucs dans notre entretien, c'est que les cartes, c'est la bourse. Les cartes, la valeur, c'est au jour le jour. C'est du day trading. Les cartes, ça se passe au moment présent. Et si je te disais que les cartes, c'est la nouvelle monnaie. Les cartes, c'est la nouvelle monnaie. Pas de taxes, pas d'impôts. Les cartes, c'est ça. Mais aux yeux de plusieurs et de tout le monde, « Hey, ils sont-tu cute un peu, les petits gars? Ils s'échangent encore des cartes d'hockey. » Man, on parle de milliers de dollars, mon chum. Ce n'est plus la même game que quand on était flo. C'est rendu une business incroyable.
C'est plus les flo qui collectionnent ça comme avant. Là.
Ben, je connais de bons kids qui le font. OK, on parle de kids de 15-16 ans, mais qui vont gérer des inventaires de cartes de 50 000, 60 000, 100 000 piastres dans le sous-sol de leurs parents qui ne savent pas que le flow a une business de cartes incroyable. Ouais. Eh oui, man, et je pourrais t'en nommer, il y en a en Beauce. C'est incroyable, là. J'ai essayé de tout expliquer ça à mon frère avant Noël, puis mon frère s'est remis dedans à fond, puis à lire toutes les... Faut prendre beaucoup de temps puis lire tous les trucs de Forbes par rapport aux cartes sportives. Puis il y a un système après ça qui s'installe, qui est quand même un petit peu complexe avec le grading. Parce que les cartes qu'on était flo, exactement. Ce système-là a vraiment construit toute cette business-là. Parce que, rappelle-toi, quand on était kid, je t'ai changé Wayne Gretzky Pro 7 contre Ed Belfour Upper Deck. Tu sais, moi, il n'y a pas de trouble. Tu sais, ta carte est maganée un peu, on checkait ça à l'œil, le coin pas trop scrap, pas de trouble, mon chum. À cette heure, avec le système de 1 à 10 de Beckett, de 1 à 10 de PSA. Il y a ACA aussi à Montréal qui fait du grading. Là, ça a tout changé la game. Là. Comme l'histoire de la Gretzky PSA 10 à 1,2 million de dollars. Une Gretzky recrue quand on était flow, on les scrapait dans les routes basiques de notre frère. on savait même pas c'était quoi.
On avait toutes Mario Lemieux recrue, puis Wayne Gretzky recrue, on les avait toutes. Là.
Ben, surtout Mario Lemieux, tu as vraiment raison. Ça, c'était 85-86, des années qui étaient quand même faciles d'en avoir. Là. Là, après ça, en trouver de nos jours, tous ceux qui ont sorti leur carte, en trouver une qui va être de top qualité 8, 9 ou 10, là, c'est un autre game. C'est pour ça que Mario Lemieux, qui avant la pandémie, on en trouvait quand même des faciles dans recrues pas gradées, 100$, ça se pouvait. Là, ça montait à 1000. Là, la dernière PSA 10 à 120 000 $ pour Mario Lemieux recrue, c'est des cartes qu'on avait dans nos mains quand on était enfant. Même.
PSA 10, ça veut dire qualité grade 10, là. C'est ça, PSA 10?
Oui, ouais, okay. Ouais, grade 10.
Mon frère, après ça, je lui demande comment il regarde si elle est belle.
Oui, puis après ça, il y a l'étape de l'envoyer gradée. Tu peux prendre la chance aussi de la vendre. On appelle ça « raw », quand elle n'est pas gradée, elle est telle qu'elle. Okay? Mais ça, ça peut vraiment faire des affaires assez particulières. Comme dans le basket, exemple, Zion, pas gradé, va être 300 $ Tu peux l'acheter 300 $ la vendre 300. Mais si elle est gradée PSA 10, ben là, elle va être 1000, 1100, 1200 $ Tu sais, ils ont rajouté l'étape de l'évaluation d'avoir une note sur ta carte qui, là, a construit un système de prix.
Ça donne une autre rareté à la même carte.
Exact. La même carte peut avoir 122 valeurs. Ça ne finit plus. C'est ça qui est capoté. Puis, les timings, moi, dans cette histoire-là, il y a 2-3 ans, c'est là que j'ai recommencé à collectionner et les cartes se vendaient vraiment pas cher. Dans l'histoire, faut que je le raconte, je me ferai un long blog à un moment donné pour tout le raconter, genre, parce que c'est quand même pas pire et j'ai été chanceux. J'ai acheté beaucoup de lots, vraiment du monde qui se débarrassait de toutes leurs cartes. Moi, j'ai tout acheté, des milliers de cartes. Et ça, c'était 2 ans avant le boom, 2 ans avant l'explosion du marché des cartes. Fait que j'ai une visionnaire. Ou visionnaire et chance. Ouais, j'avais pas encore toutes les connaissances que j'avais là. Moi, visionnaire et rêveur. Disons que j'y rêvais. Mais en vrai, ce qui me rend heureux, c'est de retrouver ou de rechecker mes vieilles cartes de Gretzky quand elles étaient échangées aux Kings de Los Angeles, au Pichy. Ça me fait capoter. Je me souviens quand j'étais kid, puis mon frère, on trippait sur Gretzky. Ça, j'adore tout ça. Après ça, de comprendre la partie business, ben là, c'est une autre affaire qui est un fun différent. On dirait qu'il y a comme deux mondes. C'est soit les vrais collectionneurs, ceux qui font vivre cette business-là, ceux qui font vivre cette passion-là. Après ça, le côté cash est une autre affaire qui est un petit peu plus difficile à comprendre. Mais quand tu embarques, là, man, les flips sont incroyables. Puis je suis pas là, je veux pas de médaille. Mais tu sais, avant le championnat des Raptors, j'étais allé acheter Kawhi Leonard, recrue 80$. 2 semaines après, il gagne le championnat. Le 80$, je le revends 600. Après ça, cette même carte peut être... T'sais, des 500% de profit, tripler le profit. Ça arrive à toutes les semaines. Puis je travaille une journée par semaine sur un après-midi par semaine dans mes cartes. Puis des fois, je me fais quasiment peur. Genre, quelqu'un est en plein là-dedans. J'ai quelques-uns de mes chums qui travaillent à temps plein dans les cartes. Et ils vivent bien, très bien et mieux qu'avant dans leur job ou ce qui était salarié. C'est assez irréel ce qui se passe. C'est vraiment ça. Puis,
là, les cartes que tu achètes, tu dis que tu as acheté des lots, tout, c'est-tu des cartes de quand on était jeune ou non, c'est une recrudescence des nouvelles cartes d'aujourd'hui?
Oui, celle que j'ai rachetée de quand on était jeune, c'est vraiment pour la nostalgie parce que j'en avais perdu, j'en avais acheté quand j'étais chez mes parents. Après ça, quand j'étais à Jonquière, les cartes, j'avais comme 2 cartables. J'avais tout le temps traîné avec moi mes Gretzky, mes Michael Jordan, que j'aimais beaucoup. Les lots que j'ai achetés, c'est encore plus vieux pour les années Guy Lafleur recrue, des bonnes valeurs, Ken Dryden. C'est tout ce qui est Gretzky et plus vieux, ça, c'est le vintage qui a de la valeur. Nos années, là, 88 à 95, ça, à 2000, ça vaut rien. Puis après ça, je te dirais, avec toute l'arrivée des fameuses Young Guns et Lafrenière avant Noël qui a fait exploser. T'sais, sûrement, même toi, tu as entendu parler des cartes de Lafrenière qui valaient full cher avant Noël. Là, autant tu pouvais avoir des matantes qui allaient dans les magasins de cartes pour acheter des boîtes, pour avoir la fameuse Lafrenière que l'imaginaire avait mis un avis de recherche pour 13 000 $ à la personne qui trouvait la carte de Lafrenière High Gloss. C'est assez fou. Là,
ça vaut combien cette carte-là maintenant? Là?
Qu'est-ce qui est foqué avec Lafrenière? C'est qu'il y a... Ah, c'était tellement fucké. Il y a tellement de versions de la carte Upper Deck Young Guns de Lafrenière que la régulière, quand elle est sortie, là, tout le monde se la vendait 400, 450, 500. Là, à 180 $ tu peux en avoir une. Mais ce n'est pas la fameuse High Gloss qui est numérotée. Il y en a juste 10, on dit dans le monde. Bon, on s'entend que le hockey, ça passe au Canada puis à Boston, New York. Là. C'est quand même ça la zone. Fait qu'il y a juste 10 cartes de Lafrenière High Gloss. Là, je te dirais, ouais, ça vaut encore du 10 000 $ mais Suzuki est en train d'exploser et sûrement que la Suzuki High Gloss, 3, 4, 5 000 $ et va sûrement dépasser Lafrenière parce que c'est au moment présent. Présentement, qui est hot? C'est Nick Suzuki. Alexis Lafrenière n'est pas hot.
Moi, tu vois, je collectionne un peu des figurines là, de Star Wars. Puis des fois, c'est ça qui arrive, la carte, la boîte sort. Mais c'est là, on ne parle pas de valeur de milliers comme toi. Là. On parle de, mettons, une figurine qui vaut 30$, mais vu quand elle sort, elle est rare, tout le monde la veut, mais elle vaut 80. Mais là, après ça, là, dans la Wave 2, elle va ressortir, puis là, elle va retomber à 30. Là. C'est comme là, il faut t'en vendre là. Ou bien, tu vas vendre vraiment plus tard 80 dans peut-être 5 ans, là, parce que là, le monde, elle ne sera plus dans les Wave, puis le monde va la vouloir. Mais dans le fond, c'est vraiment, il faut être dans le bon timing. Là. Tu prends-tu la chance de la vendre 5 000, puis dans 3 semaines, elle vaut 3 000, ou bien je la vends à 10 000 dans 1 an et demi, tu sais.
Il y a une phrase que je mets souvent dans mes trucs, c'est comme « Ah, Marteau, comment ça marche les affaires? Comment ça, tu te trompes pas encore là? Hey, c'est sûr que je vais me tromper à un moment donné. Ben oui, là, je vais en perdre des milliers ou de dollars. Je peux, mais je dis tout, les bonnes cartes au bon moment, c'est vraiment ta folie. Ça valait rien, ça, là, avant Noël. Ta folie. Blaster, 5 buts en 4 matchs. Meilleur buteur de la Ligue. Ta folie. Ben non, Anderson avec les Canadiens. Sont des meilleurs buteurs de la Ligue. C'est en temps réel. La Young Guns de Toffoli a doublé, triplé de valeur. Nick Suzuki, je vais prendre le temps de te le raconter parce que c'est irréel. En juin, il n'y a pas longtemps, là, il y a quelques mois, là, Nick Suzuki recrue Young Guns. Si tu avais un chummy qui te la vendait, tu peux acheter ça peut-être 35 $, 40 $. Moi, j'avais poussé la loc en vendant la mienne. 333 $. Et le monde disait, ah, t'exagères avec ta Suzuki, 333 $, nana. Et il y a un mois, cette même Suzuki, qui était 40, qui était 333, se vend maintenant 1 000 $. As-tu pensé, il faudrait que je calcule le pourcentage, de 40 $ à 1 000 $ en 8 mois et moins, man, c'est des 100% et des 100% d'augmentation. C'est irréel. Puis ça arrive souvent. C'est ça qui est fou. Ou des fixations. Tiger Woods recrue avant Noël, ça aussi, ça l'a explosé. Jaromir Jagr, dans nos années, par exemple, début 90, sa carte recrue, OPC premier. Je ne sais pas si tu te souviens, il y avait OPC, à un moment donné, ils ont fait premier.
Ceux qui étaient gris tout le tour, là?
Non, le premier était comme écrit en lettres attachées. C'était quand même c'était des belles cartes pour l'époque.
Fait plus gloss, parce qu'on aimait beaucoup le upper deck pour ça. Là. Il était gloss.
Ouais. OPG était mort.
OPG était cheap. Ouais. Carton de boîte de céréales. Là, tu sais.
Mais il avait sorti la OPG Premier qui était. Il était plus belle. Mais ouais. L'affaire, c'est que l'année passée, Jaromir Jagr recrue sérieusement. Là, attache-toi encore. Là. Le lot que j'avais acheté, puis là, c'était sur eBay, c'était 10 cartes pour 10 $, mais 1 $ chaque. Là. 10, okay, que j'ai revendu parce que le marché a explosé. Toutes les Jagr ont passé de 1 à 100 $. C'est ça qui est arrivé.
1 000, tu as payé 10 pour 1 000.
Et ça, là, c'est pas rien qu'arrivé à moi. Là. Jaromir Jagr recrue, là, ça l'a explosé parce que ça, on était une gang à l'avoir. Là. Et dans ce qu'on voit dans le marché, Teemu Selänne, peut-être. Martin Brodeur va avoir son tour aussi. Martin Brodeur n'a jamais popé. On essaye de watcher quel joueur qui pourrait exploser. Ron Francis, deuxième meilleur passeur de l'histoire. Sa carte vaut rien. Ça se peut pas. À un moment donné, il va se passer de quoi? Fait on essaye de prévoir les coups ou selon
les... Ceux qui achètent ça, c'est-tu des collectionneurs ou c'est des gars... Ceux qui achètent la carte avec une grosse valeur comme ça, c'est quelqu'un qui a aveu dans sa collection ou c'est quelqu'un qui va vouloir la revendre après ça 2 000 ou 1 500? Ou...
J'ai envie de dire du moitié-moitié. Il y a beaucoup de flips, effectivement. Tu achètes 1 000 pour revendre 1 200 la semaine d'après. Tu sais, fait toujours bien 1 100, 2 temps, 20% de profit en une semaine.
20% à 2-3 jours, puis c'est pas trop forçant, là.
Et ça, c'est, entre parenthèses, facile.
T'es en train de donner une maladie à prestateur. Marteau, t'as pas aidé.
Ah, mais,
prestateur, il y a des fichiers Excel de ses figurines.
Des Lego.
Il l'a acheté quand, il y en a combien.
OK, ben, on se comprend.
Tout. Oh, il est maniaque, maniaque.
J'ai un bon système de... J'ai un bon système.
Tu viens de dire qu'il y a de l'argent à faire avec les cartes. Il...
C'est ton même processus. Tu vas juste adapter tes fichiers et tes dossiers.
Dans le fond, tu es en arrière, là, mes boîtes, là, ça, c'est mes figurines Star Wars. Mais j'en ai d'autres ailleurs, on est partout.
Le best, là, puis on va comparer nos deux profils. Là, c'est genre, toi, le best, là, faudrait que tu n'aimes pas les cartes. ça fait que toutes tes décisions seraient. Ça, c'est malade. Moi, c'était ma peur. Fait que moi, je me suis dit. L'année passée, je vais tout acheter puis collectionner ce que moi j'aime, ce que j'aimerais avoir. Avoir Maurice Richard, toutes ses lettres, puis faire son nom. Il y a des cartes avec les lettres de joueurs. Après ça, Tim Horton, Eddie Shore. T'sais, tout ce que je voulais. Avoir ma Mario Lemieux, ma Gretzky recrue. J'ai tout acheté, j'ai tout échangé pour avoir ce que moi je rêvais d'avoir, ce que j'aimais. Puis là, après ça, quand j'échange 3-4 cartes de basket, ou ben non, Louis Robert au baseball, tu sais, la vérité, je m'en sacre. Fait que ça, c'est la meilleure affaire. T'sais, quand je suis collectionneur, quand je trippe sur des cartes, ben Ça, j'ai pas mal tout ramassé ce que je rêvais, ce que je voulais. Là, après ça, quand je suis dans la partie échange puis vendre, là, la vérité.
Il y en a beaucoup qui s'attachent à la collection. Moi, quand j'ai commencé, le pire, quand j'ai commencé, c'est un bon point ce que tu dis là. Quand j'ai commencé mes figurines, au début, je ne collectionnais pas. Là. Je faisais que les acheter pour les revendre. Mais à un moment donné, ah, ils sont belles, puis c'est le fun, puis ça fait beau, puis là, à un moment donné, tu accumules, puis tu en as plus. Puis le gars là, mon cinéma maison, j'ai peut-être bien 250 figurines dans le sol avec des sombres, puis des efficaces, puis des affaires. Mais à un moment donné, je vais les revendre. C'est ça qui est le fun, parce que ça a une valeur de revente aussi. C'est pas juste un cadre que tu as acheté à 250$ chez. Je sais pas comment ça s'appelle, pas une salle de là, mais une place de cadre, là, encadrement Saint-Anne, puis tu vas la revendre 30$ sur les packs, là, ou Kijiji, là. T'sais, c'est des affaires qui se revendent bien, puis ça perd, comme les Legos, ça perd pas trop sa valeur. Fait que je collectionne ces affaires-là que tu vas revendre, tu ne perdras pas grand-chose, ou très peu, ou à la limite, tu vas en faire. Ouais.
Puis il y a une affaire quand je me sers et tout, des fois, je link ça avec Marteau et ses petits pauvres avant Noël, avec la gang du 418 Sport. C'est comme une loterie pour gagner des cartes. Fait qu'admettons, ça va être un bingo, ben, c'est plus un tirage. Fait que genre, à coût de 10$, leur ramasser 2 000 $ pour Marteau et ses petits pauvres avec un tirage de cartes, c'est facile. Puis en plus, c'était une année de marde pour les organismes. Fait que d'arriver avec mon histoire de cartes qui arrivait de nulle part. Mais non, c'est une communauté qui aime ça puis qui participe à fond, man. Fait que ça là, tu sais, la vérité, ça a été bon pour moi. J'ai pu en faire aussi profiter toute ma gang de Saint-Vincent-de-Paul en vendant des maudites cartes. Fait que c'est fou raide, man. Quand t'es dedans, là, c'est fou. Mais en même temps, je ne veux pas faire rêver tout le monde puis tout, là, parce qu'il y a quand même une structure. Tu peux aussi également perdre beaucoup d'argent. Là. Ça, c'est clair. Payer des Ovechkin recrues trop chers en rêvant de la vendre le double, mais ça n'arrivera pas demain. Il y a des affaires demain.
Il y a beaucoup de travail de recherche à faire pour connaître les valeurs. C'est comme les Lego. Oui. Tu vas aller au magasin, tu vas acheter un Lego à 80$. Puis tu vas leur vendre 30$ ton Lego parce que c'est de la petite cochonnerie que personne ne veut, là, un chimé ou je sais pas quoi. Mais tu vas acheter un Lego Star Wars.
Il y a des Lego aussi, prestataires.
Ouais, mais pas toutes, là. C'est plus les Star Wars ou certains qui valent, ils ont des sachets que je vais revendre facilement. Là. Mais des Lego, j'en ai fait de l'argent avec ça. Là. Même au début, là, j'ai acheté des bitcoins là, ça fait en 2017. Là. J'avais acheté pour. C'était pas que des bitcoins, j'avais acheté aussi de la crypto. J'avais mis pour 3 000. C'était avec mes profits de Lego. J'avais tout mis mes profits de Lego dans la crypto. Mais là, c'est-tu que ça a droppé hein, après ça, après 2017. Là. Mais là, je suis correct. Là, je suis rentré dans mon argent. Là, j'ai refait mon 3 000 est correct. Là. Mais tu sais, j'avais tout pris mes profits de Lego que j'avais fait. J'avais tout acheté de la crypto avec ça. J'ai dit, ça, je perds rien avec ça. Là, c'est de l'argent que j'ai mis dans un compte. Puis elle m'a rien coûté. Là, c'est que je m'amuse avec ça. Là,
tu savais que Bitcoin est rendu à 60 000$?
Oh, oui, je le suis encore. Là. J'en ai racheté après. Là. Mais là, okay. Ce 3 000$ en tant que tel. C'est pas en tant que tel.
J'en ai pas encore acheté, puis ça fait plusieurs podcasts qu'on fait avec Jonathan Hamel. On jase ensemble aussi de temps en temps sur Messenger puis tout. Puis lui, il dit tout le temps, arrête de regarder la valeur. Il dit, achète, mettons, à toutes les fois que tu as ta paye, tu mets un 100$. Peu importe la valeur. Il dit, ça va toujours monter. Mais tu sais, on dirait que je suis pas capable de...
Il était à 10. Il était à
4. Surtout là, il est rendu à 60. Je me dis, j'ai manqué à raide, mais
il était à 12 500.
Encore cave, il va monter à 120. T'sais.
Il était à 12 500, plafond, quand on a fait le podcast avec Joe Hamel.
12 500, ouais.
En novembre.
Hey, ben oui, parce qu'après ça, entre Noël et aujourd'hui, il a doublé encore. C'est,
ouais, il a monté après ça à 14, 5, 17, 20. Après ça, il est remonté à 53, puis il est redescendu à 30 coques, là, il est remonté à 60.
Hier, 60. Ouais. C'est irréel. Le Moss qui tripe sur le Dogecoin, je sais pas si tu le
Dodge,
ouais.
Ouais, le Dodge. Il a monté en Nestie aussi. C'est
vraiment, oui.
Moi, les cryptos, je touche plus à ça, je prends du Bitcoin en ce temps, mais. Ça, c'est encore pire là, que le Bitcoin, là, ce que ça a fait, le Dodge. Là.
Mais c'est plus 1000%.
Oh, oui,
c'est en fou. Quelques jours. C'est, ouais. L'affaire de moins 4 cents à 10 cents, c'est irréel comme...
Il était à 0,006 cents, genre.
Puis là, aujourd'hui, à 10 cents.
10 cents.
C'est ça.
Non, c'est fou.
Ça serait peut-être à en acheter, dans le fond.
Ben, c'est, ben là, l'affaire, c'est comme... C'est ça, c'était le temps. C'est ça, il faut commettre.
Mais le pire, là, c'est que parlant de Dodge, là, ça fait un bout que Musk en parle sur Twitter de Dodge. Je pensais qu'il niaisait avec ça. Puis, Dodge coin, c'est quoi cette marque?
Mais là,
moi, je m'intéressais pas à ça de temps. Là,
ouais, mais Snoop Dogg embarqué, Gene Simmons, là, c'est là. Moi, j'étais en retard, c'est la semaine passée que j'en ai acheté. Mais tu es encore là. Moi, je l'ai payé. C'est tellement drôle. J'ai payé 8 cents, mais là, il est à 10 cents. Fait que je suis à plus 25% là, en une semaine.
Ouais, mais il aurait pu tomber à 0,007 cents aussi.
Oui, oui, je sais bien. C'est pour ça que je le prends en riant. Là, ouais. J'avais pas misé ma vie là-dessus, mais quand ça va bien, c'est vraiment drôle.
Dans le fond, c'est un peu du trading, là, tes cartes. Là. C'est comme jouer à bourse.
C'est la même affaire.
Mais c'est juste que tu. Ben, c'est ça que je fais avec mes Lego et mes figurines. Ça, je dis des fois, mais mon père ne comprend pas trop. Je dis, père, je vais aller acheter un Lego. Là. Je vais me coûter 250$. Au pire, je le sais que je vais la revendre 250$. Parce que je sais qu'il ne perdra pas. Donne-moi un titre à la bourse, tu vas être sûr de la revendre le même prix. Là. Puis là, j'ai un inventaire, j'ai le fun, je m'amuse à le faire, puis je la revends après, à la limite. J'ai un peu de plaisir en le faisant.
Oui, ben oui, mais il faut que ça reste un hobby aussi. Si tu avais un autre hobby, quoi, tu dépenserais dans ton loisir. Là, au bout de ton propre loisir, si en plus, si tu arrives à zéro, puis en plus, tu fais du cash, ben c'est rare les loisirs aussi que tu peux faire du cash.
Très rare. Ouais. Très rare.
D'un loisir, une belle passion, d'habitude, ça coûte cher.
C'est clair. T'sais, en faisant de la raquette, tu ne peux pas vraiment revenir dans ton argent. À moins que tu sois un puissant champion de raquette sauvage.
Peut-être si tu faisais de la raquette en Colombie avec une pelle, puis tu creuses des trous, puis à un moment donné, tu trouves des milliards.
Ah, des millions,
en tout cas. L'argent à Pablo.
Ah, OK, oui, à Pablo, à Colombie. Oui, c'est beau.
Et moi, je ne sais pas pourquoi... Tu parlais de ça, je suis parti dans un délire. Je voyais quelqu'un en raquette, la graine à l'air à Saint-Georges-de-Beauce, en train d'enfanter toute Chaudière-Appalaches de village en village.
Il n'y a pas un gars qui faisait ça avec des vaches?
Avec des vaches?
C'est rendu loin, Marteau.
On a mélangé deux histoires. sans condom,
il
c'est non.
Il enfante la Beauce avec ses raquettes. C'est le vache grand en... champion!
De vache en vache.
De vache en vache.
Fait que là, toi, Marteau, dans le fond, t'es, vraiment, oui. T'es plus dans le hockey ou t'es dans tous les sports où t'es dans, tu vas avec la valeur de la carte? Parce qu'il faut, tu sais, ça fait beaucoup de recherche, savoir quelle carte, quel joueur, quel ci, quel ça, là.
Puis, on dirait que ça m'a remis à... Mais j'aime ça, par exemple, avec Eduardo aussi. Là, mettons, on écoutait le football en novembre. On aimait bien les Bengals, Joe Burrow. Fait que là, avant qu'il se casse la jambe. Là. Fait qu'on watchait Joe Burrow. Là, Joe est en feu. Il battait des records pour une rookie. Là, je ramasse des cartes rares de Joe. Là, j'attends son retour au jeu à l'automne 2021. Là, ses cartes, logiquement, vont exploser. Là, ça va être le temps de vendre. Tu sais, ça fait de la stratégie. Ça permet de checker plus les games. Tu check la finale de la NBA l'année passée. Il y avait les recrues. C'était Tyler Hero. None, qui était fort. Fait que tu écoutes les games, tu essaies de voir quelle recrue va exploser, tu ramasses les cartes. Aussitôt que le draft, le repêchage, ben là, tu ramasses toutes les cartes.
Les draftés ont des cartes? Les joueurs draftés ont des cartes?
Ouais, parce que même au hockey, à ce temps, ils sortent les cartes de la CHL. Fait que tu peux avoir le frère à Suzuki, Lafrenière, quand il était aussi dans Team Canada. Upper Deck fait des cartes aussi CHL. Fait que...
Les cartes McDo dans le temps, ça vaut-tu quelque chose, ça?
Quelques-unes, comme même là, Tim Horton, les dernières qui ont sorti avant Noël, il y avait une carte SP, là, une rare de Gretzky, qui se vendait 1000$, pareil. Puis les cartes trio des 20, 30, 40$, il y en avait quand même beaucoup. Okay. Ouais, Upper Deck, Tim Horton a emmené ça à un autre niveau depuis quelques années. Ouais, mais les McDo, non, quand t'es kid.
C'est des petites cartes yum-yum que j'avais dans le temps. Là. Des cartes hot, de ouais. Même, là. C'est des sacs de chips, là.
J'ai les baskets de ça. Tu sais, il y avait les Skybox et tout dans les chips. Tu peux avoir Jordan, Magic Johnson.
Non, moi, c'est vraiment les cartes d'hockey.
OK. Ouais, ils étaient baskets.
Peut-être j'en ai, mais je les ai achetés sûrement.
Il y a une affaire qui est le fun. Je vais en parler un peu parce que les cartes, ça se divise en plein d'affaires. Il y a les breaks. Parce que bien souvent, exemple, comme ce qui s'est passé avec les Upper Deck, la série de Lafrenière. En temps normal, il y a deux ans, ou qu'importe, il y a un an, acheter une boîte de cartes, c'était 100$. Mais là, à cette heure, à cause de Lafrenière,
oui, Young Guns... Je sais quoi les breaks, j'ai déjà entendu ça, je sais quoi, tu vois.
Les boîtes, ça vend 200$ pour le hockey. Dans le basket, comme là, NBA Hoop, c'est sorti la semaine passée, à 800$ la boîte, tu sais, on ne peut pas en acheter 10. Dans ce temps-là... moi, c'est directement au 418 Sport. Eux autres sont dans le marché Jean Talon. C'est des chummies qui ont la boutique, ou l'imaginaire, ou qu'importe, c'est bon. À Victo, il y a un autre magasin de sport, là, de cartes sportives, ils sont tous bons.
Mais c'est eux autres qui bossent le prix, c'est qui donne la valeur du paquet?
Ben, quand Upper Deck, admettons, c'est un peu la cause d'Upper Deck, ben, en même temps, ils printent plus, mais pas à l'infini. La rareté, les line-up pour avoir les cartes. Oui, puis Upper Deck, à chaque deuxième vague, troisième vague qu'ils vont vendre aux marchands, ils vont augmenter eux autres aussi les prix. Fait qu'au bout, c'est. Je veux pas mettre ça à la faute à personne. Je pense que c'est vraiment le marché qui est comme ça. T'sais, on parle de prix de fou, mais c'est la faute à qui? C'est vraiment l'offre et la demande.
Mais toi, tu peux-tu, mettons, t'ouvrir un compte sur le site d'Upper Deck et dire, moi, je vais acheter des cartes pour les revendre, puis là, tu les gardes toutes. Là.
C'est une bonne question, mais de ce que je vois, les gars qui ont des magasins, il faut vraiment qu'ils soient marchands autorisés puis licenciés Upper Deck. Ouais, Tipol ne pourrait pas, à moins qu'il en achète un très gros volume. Si tu achètes 1000 caisses comme, mettons, une boutique sportive, je ne sais pas, à Montréal, si tu fais ça toi-même dans ton sous-sol à Saint-Étienne, oui, sûrement, mais même pour trois boîtes, non. Fait que j'en reviens, mettons, à Upper Deck à 200$ la boîte, 5 boîtes, 1000$. Tu sais, pas grand monde va s'acheter vos 1000$ de boîte. Là, est arrivé le système des breaks. Si pour 25$, tu peux acheter une équipe. Si moi, j'ai les Canadiens de Montréal, toutes les cartes des Canadiens qui vont sortir dans les 5 boîtes sont à moi. Puis, ça va m'avoir coûté quasiment. T'sais, tu comprends? C'est le prix total des boîtes est divisé en 32 équipes, en 30 personnes. Fait que c'est là que tout le monde économise.
Tout
avec
le monde choisit son équipe.
Oui, ou ils sont random. C'est sûr que là, cette année, tout le monde veut les Rangers. Fait que bien souvent, c'est au hasard. Fait que la personne qui a payé, exemple, 45$, puis qui tombe sur les Rangers, toutes les cartes des Rangers vont être à lui sur toute ouverture des cartes des boîtes. Il peut ramasser pour 1000, 2000, 3000$ de Lafrenière, Young Guns. Puis,
c'est ça.
C'est assez fou. Là.
Dans le fond, ben, les breaks, je vais expliquer ce que moi, ma compréhension que j'ai de ça, ce que j'ai déjà vu, parce que à mon avis, il y a plein de monde qui ne savent pas c'est quoi. Là. C'est comme du monde qui ouvre des cartes puis ils sont comme filmés. Puis, à moins qu'ils fassent ça ensemble dans la même pièce, mais c'est en site plus dur. Là. Mais maintenant, ils vont des caméras qui vont filmer la boîte. Fait que là, le gars, il va ouvrir le paquet, il va le prendre, il va l'ouvrir devant la caméra. Fait que le monde ne peut pas dire il a enlevé une carte, là, il rouvre devant toi avec plein d'angles. Puis là, il montre les cartes une par une. Puis là, on sait qu'il y a eu.
Autre chum qui faisait ça, prestateur.
Ouais, je sais, ben oui, je sais. C'est pour ça que j'ai vu ça.
OK.
On le nommera pas, mais oui. Proche de moi, deux chumés qui vivent de ça, avec les breaks. C'est vraiment juste un calcul.
Ils vivent de ça,
man. C'est assez capoté.
Ils vendent les breaks. Ils organisent le break, puis ils ramassent une cote là-dessus, dans le fond.
Ouais, en plein ça, puis genre, faut dire la vérité, si recule, il y a... ben c'est une job temps plein. Puis si recule, il y a un an, deux ans, tu sais, les gars renaient à un, deux breaks par semaine. Là, on parle de x10, x15, entre 20 et 30 breaks par semaine.
Voyons
c'est incroyable. La demande, c'est dur à comprendre. Puis,
c'est-tu par région? Ben, c'est-tu québécois? C'est-tu canadien, mondial? Parce que dans le temps, les cartes, tu pouvais avoir plein de cartes. Moi, j'étais à Pont-Rouge. Là. Pont-Rouge, Saint-Ramon, le monde avait des cartes. Là. Mais tu allais à Bécomo, il n'y a pas de petit chat qui collectionne des cartes.
Le web, eBay, qu'importe, a fait que là, tout le monde y a accès. Puis j'ai vraiment envie de te dire mondial. Parce que c'est autant que le basket, la Chine va en acheter beaucoup. Après ça, si on en parle peu, mais tout ce qui est le soccer, Messi, Ronaldo, ça va se passer dans les Europes. Après ça, Amérique du Sud, tout ce qui est basket, tout ce qui est NFL, tout ce qui est hockey plus le Canada. Fait que c'est mondial. Ça a explosé de manière mondiale depuis un an et demi. Puis de ce que je lis, puis j'essaie tout le temps d'être au courant puis de prévoir ce qui s'en vient. Encore là, rien que je veux pas de médaille là-dessus. Là. De ce qu'on voit, on pourra encore avoir 2 à 3 ans de gros pics. Puis, ça finira pas demain. Il y a encore là, 36
Il y a trop de volume, il y a trop de marché, il y a trop d'acheteurs. Puis,
c'est fou. Puis, c'est ça qui arrive. Plusieurs sont retombés dans leur vieille carte et ont retrippé. Pendant 25 ans, je n'avais pas touché à ça. Mon frère, pendant 25 ans, n'avait pas touché à ça. À ce temps, on s'en parle à tous les jours. On watch quelle carte qui a explosé. Si il était moussé l'année, il va arriver de quoi à un moment donné? Parce que c'est un des plus grands joueurs. Pavel Bourré, il va-tu se passer de quoi? On essaie de prévoir. Spotter les recrues, c'est tout le temps hot. Jake Evans, les joueurs des Canadiens, c'est encore plus populaire au Québec, c'est certain. C'est des grosses valeurs qui augmentent rapidement puis qui drop pas vite, par exemple. J'ai pas vraiment d'histoire de flop à te raconter. Un peu Tiger Woods recrue qui a beaucoup explosé dans les 1000$. Plaster, pour 300-400, tu peux en avoir. Tu sais, ça a redroppé.
Je pense que ça remonte quand même.
Ben oui, c'est sûr, c'est clair. Puis là, en plus, ce qui va être le plus hot, T'sais, autant là, les Tiger Woods, plusieurs en avaient peut-être chez eux qui n'avaient pas fait grader, qui n'avaient pas fait évaluer. Là, plusieurs vont le faire. Puis, moi, il y a de quoi j'essaie vraiment de propager, c'est que souvent, on envoie nos cartes aux États-Unis, les faire évaluer en Californie. Ça coûte cher, ça prend du temps avant qu'elles reviennent. Alors qu'il y a ACA à Montréal qui peut les évaluer et les grader. Et au bout de tout ça, on va dire la vérité, un coup qu'on a nos cartes gradées, on se les revend, on se les échange entre nous autres au Québec.
Anyway,
pourquoi les faire grader en Californie? C'est le bout qui me manque un petit peu. Faites travailler ACA à Montréal. C'est, notoriété augmente à fond. Les bons travaillants, les délais sont bons, les prix aussi. Je ne connais pas le gars perso.
Ça coûte combien faire grader une carte?
Chez ACA, les chiffres, à 20$, tu peux avoir un très bon grading avec le case. Il est super beau. En plus, celui-là de ACA. Pour ce qui est de PSA, un petit peu plus complexe. Soit qu'il faut que tu sois membre annuel ou bien non, il y a aussi des envois de groupe. Et là, avec les assurances, le tracking, avec le coût du grading, et c'est selon la valeur de la carte.
OK, ils vont évaluer leur travail. Si la carte vaut 50 000, ben, le grading va coûter plus cher là, parce que le gars, il a plus de risques de scraper la carte, mettons. Ben...
Fait que disons qu'un grading à 50 US de départ, à 60, 70 transport, si c'est une Mario Lemieux recrue, ça peut coûter des 100$ grader une carte, mais ça fait partie de la game. Ta carte gradée va doubler et tripler de valeur par la suite.
Ouais, il y a ça, le grading, dans les figurines aussi.
Beaucoup.
Surtout les figurines, les vieilles. Là, les vieilles. Mais il y en a qui font grader des figurines actuelles parce pour le futur. Mais mettons, une vieille figurine gradée de Star Wars de 1977, là, gradée 10, là, ça peut valoir plusieurs milliers. Là, plusieurs
milliers. Tu connais-tu mon chum, le colonel Daniel Bouchard, il était propriétaire, il trippe fort sur les figurines Star Wars.
Lui, il est dans une autre ligue. Là.
OK, il est solide. Il m'en parle souvent. Beaucoup d'inventaires qu'il me disait aussi.
Non, lui, il n'est pas dans ma ligue.
OK. C'est intense. Cartes,
dans les cartes, tout sport confondu, tu sais-tu c'est laquelle qui vaut la plus chère de toutes?
Bon, là, présentement, c'est sûr qu'il y a une Gretzky à 1,2 million qui est sortie du Mickey Mantle dans les 4 millions récemment.
Mickey Mantle, 3,120,000 qui a été vendu.
US?
Ouais, US.
Mais c'est carte, malade. Une vieille carte, mettons, de Bobby Orr.
Elle était gradée 9, elle.
Ça vaut-tu plus cher qu'une Mario Lemieux?
Comme là, présentement, là, aux enchères, il y en a une Bobby Orr recrue et la communauté semble rêver qu'elle dépasse Gretzky. Là. Ça va poigner de millions, cette histoire-là. Bobby Orr, c'est d'un top, là, avec Gretzky. Après, Bobby Hall, c'est fort aussi. Mario Lemieux, comme tu sais, à 100 000, c'est déjà incroyable, mais c'était jamais arrivé avant, là, Mario Lemieux recrue.
Mon frère est cher, là, Mario Lemieux recrue. Il faudrait que je check. Qu'il demande, je sais qu'on avait des affaires de plastique qu'on la mettait dedans dans le temps pour la protéger.
C'était mais tu sais, nos systèmes étaient bizarres. Beaucoup de cartables et tout, souples, hein, qu'on mettait les cartes dedans. On les maganait. Mais ton frère, probablement... même raw, un peu magané, du 400-500$ sûrement. Là, ça reste une Mario Lemieux recrue.
Oui, je pense qu'il y a Lemieux recrue puis il y a Gretzky deuxième année. Je ne sais pas si elle vaut
quelque chose. Mais... Ça, c'est con. Les deuxièmes années, ils valent rien. Le monde ne les veulent pas. Mais encore là, est-ce que le marché va évoluer puis que les deuxièmes années vont exploser à un moment donné? Je sais. On ne sait pas trop. Mais le système, ça, ce bout-là est bizarre. Tout est basé sur la maudite carte recrue. C'est vraiment... tout dépend de ça. Le gars a pu avoir fait 18 records à sa troisième année, mais on ne la veut pas. C'est vraiment la carte recrue. Ouais,
c'est comme des modes. À un moment donné, tu dis la mode va changer. Puis,
mais tu sais...
À un moment donné, le chiffre recru va être banni par des woke. Là. Ça n'existera plus le mot recru. Là. Fait que les cartes vont perdre de la valeur.
Ça fait passer... C'est comme des Steve Eisenman. On capotait sur Steve Eisenman. Steve Eisenman recru, ça ne vaut rien. Mike Bossy recru. Ça vaut même pas 100$. Il y a plein d'affaires comme ça illogiques, mais qu'on peut être un peu visionnaire en se loadant. Tu t'es ramasses ces cartes-là que tu ne comprends pas pourquoi ils valent rien. Leur tour va arriver à un moment donné.
C'est un gamble.
Comme Martin Brodeur, score, recrue, tout le monde rit ça, mais moi j'ai encore un espoir, j'y rêve. La carte est belle, j'aime Martin Brodeur, fait que j'attends. Là, c'est mon côté collectionneur. C'est comme là, je suis heureux quand je parle. Martin Brodeur recrue, ça me fait rire. Ça vaut une pièce, mais ça me fait rire. Fait que je les garde.
Une carte signée, ça a-t-il une meilleure valeur?
Oui, si elle est authentifiée. C'est vraiment ça. Ouais, hein? C'est tant que tu tu l'as pas fait authentifier, personne ne va la vouloir vraiment. On ne prendra pas le guess qu'elle soit fausse, la signature. C'est,
quand tu vas la faire grader, ils vont être capables de l'identifier, eux autres.
Ouais. Ouais, puis là, si tu étais avec Guy Lafleur et ta photo avec, puis tu vois bien qu'il l'a signé, il y a plein de trucs de même qui peuvent aider. Mais si tu as une carte de Joe Sakic signée que tu veux vendre à quelqu'un, moi j'en voudrais pas, puis personne dans les cartes en veut vraiment. Là. C'est comme tu gardes là, elle est hot, ta carte de Joe Sakic, là, mais tu sais, ça n'a pas vraiment de valeur tant qu'elle n'est pas. Authentifié. C'est fucké, mais c'est dingue.
Dans les conventions, mettons, de Star Wars, par exemple, là, exemple, mettons qu'il y aurait ben Marie-Claude Bourbonnais, ça doit être ça aussi, là, quand il y a des conventions, qui elle a des cartes, des figurines, des affaires, là, mais mettons qu'elle veut signer quelque chose, là, ben, ouais. Le monde, ils vont payer pour la signer. Fait que, mettons, exemple, une carte de, mettons, l'acteur qui a fait Boba Fett, OK? Mais là, toi, tu as la figurine Boba Fett. Il y en a qui c'est des boîtes, il y en a qui c'est des cartes. Puis là, c'est l'acteur est là. Mais là, tu vas aller faire signer. Ça va peut-être te coûter 25, 30, 40, 50 piastres US la faire signer. Fait que là, sa signature est sur ta boîte. Là, tu as comme un genre de reçu qui prouve que tu l'as fait signer. Là, fait que là, ta boîte finit automatiquement de gagner la valeur de la signature en partant.
OK. Ah, c'est bon. Moi, je comprends. Un peu comme dans les Comic-Con avec.
Avec les Comic-Con. Marc-Claude, elle doit en signer des. Puis, elle doit avoir des genres de reçus de ça pour dire, regarde, c'est elle qui a signé, c'est pas ma belle-sœur. Là,
OK. Ah, je comprends. Ouais, ben, ça ressemble tout. Ouais. Ben, tout ce qui est collection, ouais, les figurines puis les cartes, ça ressemble beaucoup.
Ça ressemble pas mal.
Ouais, ouais. Ben.
Vous, là, je t'ai demandé la carte la plus dispendieuse parce que quand j'ai écouté le film Christmas Chronicle l'année passée, puis qu'à un moment donné, le Père Noël, il sort une carte de Nicky Mantle, justement, puis il la donne au gars contre sa Porsche, puis sa Porsche, elle vaut, en US, après, je l'avais le prix ici, 293 200 $, une Porsche GT2 RS 911. Je sais pas si c'était ce modèle-là, mais mettons que c'est une des Porsches les plus chères. Il dit, c'est-tu encore la Porsche? Il donne la carte. Le gars, il dit oui, il est content au bout, parce qu'il sait qu'il y a une carte qui vaut plusieurs millions, puis sa blonde, elle la prend, puis elle la déchire, de même dans sa face. T'as pas vu le film?
Non, pas vu. Non.
Hey, faut t'écouter ça, c'est tellement bon là.
Je sais qu'Edouard a vu le 1 puis le 2. Ouais, Edouard l'a vu. Il y a un puis le 2, hein, c'est ça.
Ouais, mais ils l'ont sorti l'année passée. Ils viennent d'en ressortir cette année.
C'est quoi le titre du film?
Christmas Chronicle. C'est avec Kurt
Russell. Ouais.
Kurt Russell. Ouais. Excellent comme film. Là.
C'est pas.
Pour écouter familial, là, mais tu sais, nous autres, comme à toutes les années, il me semble que ça va être un classique. Là, on va réécouter ça. Okay, parce que
oui,
bon.
C'est le Père Noël. Là.
Ouais.
Ok, ouais. Ouais, je sais c'est quoi.
C'est le film du Père Noël. Mais
c'est les enfants l'ont écouté.
Parce que là, ils se sont plantés en traîneau, puis là, ils rentrent dans un restaurant, puis là, ils demandent, ils disent, y a-t-il quelqu'un qui veut me faire un livre, ouais. Père Noël. Puis tout le monde, ils disent, il y a un vieux fou. Il y en a même qui appelle la police. Là. Il y a un vieux bonhomme sur la brosse.
Oui, c'est ça. Enfants, ok, oui, je me rappelle de ça.
Il nous dérange, puis là. Il s'en va voir un gars, puis il dit, hey, chose, il dit, tu voulais avoir telle carte, gars, hein? Tout pristine, tu sais, parfaite.
Ah, c'est le Père Noël, il l'a fait apparaître.
Il la donne contre ta Porsche. Sa femme, elle dit, non, elle dit, on garde la Porsche. Elle dit, voyons, il dit, sais-tu comment qu'elle vaut, cette carte-là, chérie? Puis elle arrache des mains, puis elle dit, elle vaut absolument rien. Puis elle a déchiré en deux. Elle a été vendue, comme j'ai dit, 3 120 000.
Le gars s'en collait sur sa Porsche, je pense.
Puis ils disent que si elle était grade 10, là, ça serait 10 millions qu'elle se vendrait.
Non, pas encore. Ouais. Quelqu'un peut en trouver une. Comme là, avec tout le trip des Gretzky PS10 à 1,2 million, on dirait qu'il y a des centaines de Gretzky qui n'étaient pas gradés, qui sont réapparus. Moi, toi, petit Paul Ambos avait ça dans sa collection, mais ça fait 30 ans, 40 ans qu'il n'a pas touché à ça. Fait que c'est fou raide. Ouais. La population...
Les cartes de Gretzky. Comme Nicky Mantle, je pense qu'il y avait un... Je pense qu'il y avait une histoire là-dedans qu'ils en avaient imprimé comme beaucoup, puis ils n'ont pas vendu, puis ils ont jeté dans le fleuve ou une affaire de même. Il y aurait une histoire avec ça. Fait que ceux-là qui en ont, il n'y en a plus. Fait que...
Incroyable. Mais ça, il faudrait checker. Là. Je ne veux pas avancer des chiffres comme ça. Mais à 3 millions, la dernière fois qu'elle a été vendue, ça a peut-être doublé à 1,5, à 900, 800. Si on recule il y a 50 ans... T'sais, cette carte-là est peut-être partie d'une revente à 10$ ta, à chaque 3 ans.
C'est la même carte qui s'est revendue plein de fois. Là, tout de même, là.
C'est fou, man. C'est vraiment fou. Il n'y a rien qui peut avoir cette vitesse-là de pourcentage d'augmentation.
Toi, Marteau, t'es-tu à craquer au point d'aller, mettons, d'inventer un garage, checker si le monde n'a pas des cartes à vendre?
Non, pas en tout.
Il y a des genres de locks à faire là-dedans, des fois. Là.
Ouais, eh ben, t'as raison. On dirait que là, le système te parle à l'envers. Ben, plusieurs savent un peu que je m'intéresse aux cartes. Ça arrive
le monde te
sans
dit,
exagérer. Peut-être 4-5 fois par semaine, du monde vont m'écrire sur Messenger, m'envoyer des photos de leurs cartes.
Moi, je l'ai fait.
oui, c'est vrai, ça m'a envoyé le stock. Tu sais, ça vit beaucoup du rêve. On espère, maudit, en l'avoir, mais nos satanées années, on a tout le même âge. Quand t'es kid, ça vaut rien, maudit. Ah ouais. Je sais que c'est
flat. C'est les récentes-là qui valent l'argent. Ou bien les avant Gretzky.
Exactement, c'est ça. Puis,
Peter Stachy, ça vaut-tu quelque chose? Ça?
Quand même, recrue, c'est bien gradé. Je ne vais pas dire n'importe quoi, mais peut-être même pas 100$.
Ouais, c'est ça, j'allais dire 20$. Ouais, dans le fond, ça vaut rien.
Mais non, c'est ça. Mais, quand on était kid, admettons, on avait Jaromir Jagr qu'on checkait dans le Beckett, puis elle avalait 5$. Pourquoi on était si émerveillés? Hey, notre fucking carte, elle avalait 5$.
Oui, on la regardait dans le Beckett, hein, c'est vrai.
Oui. Puis à cette heure, une carte en bas de 20, 25, 30$, on y pense même pas, on s'en fout. Mais c'est pas la même époque, c'est plus pareil. C'est vraiment plus ça. Mais
il y a beaucoup des affaires sur les collections. Même Jerry en a déjà parlé. Lui, il parlait des sacoches. Je me souviens plus c'était quoi la marque des sacoches. Ça se peut que ce soit Louis Vuitton, mais tu sais, je veux pas m'avancer sur la marque. C'est, mettons, t'achetais une sacoche, elle vaut peut-être bien 10 000 quand t'as fait faire le flambant neuf et tatouage. Mais après ça, si tu veux la revendre 2, 3, 4, 5 ans plus tard, elle vaut peut-être bien 200 000. T'sais. Puis il y a comme pas une sacoche. Il s'en fait peut-être plus, là, remarque, je sais pas. Puis il y avait un dictateur d'un pays que son régime a tombé. Puis là, les autorités sont rentrées là, puis sa femme, elle en avait comme 250 de ces sacoches-là. Il n'y en avait comme pas une en bas de 300 000.
Wow.
Ouais. Fait qu'il y a,
c'était pas en Syrie, justement. C'était pas le
gars. Ouais, mais Jerry, il disait, dans le fond, il faut arrêter d'investir à la bourse, il faut s'acheter des sacoches.
Il y a plein de gugus de même, là, de la monnaie, la vieille monnaie, des vieux billets. Dans les, mettons, tu peux voir des fois du monde, ils vendent des vieux 20$, là. Puis même dans la monnaie, là, dans les dollars, là, mettons, je me sais plus du nom, ça a un nom, cette affaire-là, mais mettons, tu as un numéro de série sur chaque billet. Mettons, le numéro de série, c'est 8804-4088. Fait que c'est comme un miroir, comme ton Civic, là. Tu sais, Civic, c'est IVIC, là. Bon, mais si tu le coupes en deux, ça fait un effet miroir. Mais il y a des numéros de série, là, il y a des mettons, un billet de banque de 20$, qui a un numéro de série, ça a un nom, je me sais plus c'est quoi le terme, là. Mais ton 20$, il y a une valeur pour les collectionneurs juste à cause de ça. Même un 20$ actuel, exemple, qui vaut peut-être bien 25$. Ouais. Là. Mais les vieux, qui
sont j'avais fait signer un billet de 20$, moi, par Kyle Busch, le pilote de NASCAR. Il était venu à l'autodrome Chaudière à Vallée, puis après la course, moi, je m'en vais dans les pits, puis je le croise, puis je dis « Hey! » Puis là, j'avais un 20$ sur moi, je veux-tu signer ça? Puis il signe mon 20$. J'ai dit « Cool, là, je vais le vendre sur eBay. » Il a dit « Ouais, pour 19$. » Puis je l'ai perdu. Man. Je sais pas, il est rendu où, il doit être dépensé, je sais pas.
Plafond, je te fais une virgule, te rappelles-tu? Quand Kyle Busch est venu à Vallée, OK, il a gagné, il a torché avec quatre tours d'avance. Mais c'était pas sorti full public au Québec après. Il a été disqualifié, il avait triché. Hein. Son moteur était trop boosté, il était pas conforme, man.
Niaise, je savais pas ça.
Tu checkeras, j'avais les liens. Parce que mon chum qui travaillait chez Bardol, il m'avait tout sorti les links aux States. La news était sortie d'un revue spécialisée d'un site aux States. Et au Québec, c'est comme jamais sorti. Il a triché à Vallée.
Il triche tout, là, en NASCAR, oui, on le sait, mais il était flasheur à gauche, puis il
était 4 tours d'avance, là,
flasheur à droite.
C'était l'asile, mais ça m'avait tellement fait rire. C'est sûr qu'il... Mais tu sais, on le voyait à l'œil qu'il était beaucoup trop vite par rapport aux autres.
Après que Kyle Busch est parti, mais là, moi, j'ai marché, je suis allé voir aussi son trailer, puis il y avait le gars des tires. Puis j'ai dit, c'est toi le gars des tires, mais moi, je voulais poser des questions sur les pressions derrière des patentes de même, tu sais. Il me dit, il dit, t'en veux-tu un? Il dit, ramasse-toi en un dans la pile qui est là. Je dis, là, il dit, viens. Puis là, il en prend un, il me le donne. Je l'ai ici dans mon garage.
C'est un genre un flat ou quoi? C'est quoi
le tailleur? Ben, eux autres, ils font des laps. À un moment donné, le tailleur, il est usé un peu. Puis, tu sais, c'est un gars qui a du budget. Fait qu'il. Après une course, lui, ses tailleurs sont finis. Hein, il en reprend pas d'autres. Là. Il reprend pas. Puis, il me l'avait donné. Là. Si un jour j'ai la chance de faire signer, j'aimerais bien ça. Mais je trouve ça drôle, j'ai un tailleur de.
Tu feras grader.
On va le faire grader.
T'as juste des gradings de pneus?
Non, je pense pas.
Dans un case de plastique.
Un gros case.
Ouais. Mais non, moi, j'avais passé quel tailleur, mes chums me voyaient, ils disent « Ah, tabarnak! » On se demandait comment faire pour en avoir un, puis on voit le plafond passer avec un tailleur. C'est que t'as fait, tu vois, le gars me l'a offert.
Je l'ai brûlé, si j'ai fait un feu de feuille avec.
Ouais, je brûle avec mes vieux tailleurs d'hiver.
Ouais, c'est ça. Mets du gaz, mets ça des feuilles, crée ça dans la...
Hey, tu parlais tantôt des numéros de série, des billets de 20$, puis tout, ça m'a fait allumer sur de quoi? D'une carte de quoi qui est fucked up. Exemple, Nick Suzuki, sa carte exclusive, il y en a 100. Nick Suzuki a le numéro 14. Si tu as la carte 14 sur 100, oh là là, tu peux la vendre 25% plus cher, 50% plus cher.
Oui, parce que là, ce n'est juste une.
Ah, parce que là, c'est tellement merveilleux que ça l'aille. La carte a le même numéro que le joueur. Fait que, il y a plein d'affaires de même qui me font rire. Ça, c'est pas, le bout de collection. Ça, c'est le bout de business que, sans rire de personne, je trouve un petit peu taré. mais la game, le système est comme ça. La carte a le même numéro que le joueur. Fait que là, tu peux faire 500$ de plus. Fait que c'est malade. Ça reste malade là, parce que quelqu'un qui est là-dedans à temps plein peut vivre de vendre des fucking cartes de hockey. Toute chose que n'importe qui a un an et même encore plusieurs. On peut en rire, là. Mais il y a du cash là, mes amis. C'est un petit peu débile.
Il y a définitivement plus de cash que je t'écoute parler là, que mes figurines puis des Legos, c'est sûr. Il y a des Legos qui ont pris beaucoup de valeur, mais c'est des vieux. Puis il fallait que tu sois là, il y a 10 ans. Là. Moi, j'ai acheté le Faucon Millennium, première version, la grosse collection de UCS. Là. Il y avait 5000 morceaux. Là, le nouveau, il y a 5000 morceaux. Mais le premier qu'ils ont fait en 2007, il valait 500$. Plus taxes. Hein. Puis quand neuf, là, quand il s'en revendait d'un plus cher, il s'en revendait 5000. Neuf. Mmh. Moi, j'ai payé 1800, je l'ai vendu 1400. Mais tu sais, je l'ai eu pendant un an de temps. Mais tu sais, c'est une grosse crise de patente, ça, là. 5000 morceaux, c'est gros, là. Mais tu sais, on parle de 2007, là. Ça fait longtemps, là. Tu sais, il n'y a plus de gros gap de valeur. Les Legos, ça en font, tu sais, ils en font beaucoup quand même de leur version, moins que pour de certains modèles. Mais là, la façon dont tu parles...
Ils refont des versions aussi.
Ils refont des versions. Des fois, oui, des fois, ça donne un nouveau souffle à des vieux Legos. C'est bizarre. Des fois, tu aurais pu penser que, vu qu'ils font un nouveau Lego, le vieux perd de la valeur. Mais des fois, non. Des fois, ça ne change rien. Des fois, le monde, je le voulais. Ils veulent les deux. Tu sais, ça peut être bizarre. Mais les cartes, là, c'est le fun parce qu'ils n'ont pas de place aussi. Mais par contre, tu as plus de risques parce que peut-être plus avoir une plus grosse perte monétaire, mais tu peux faire beaucoup de plus de gains si tu as la bonne carte. Là, que des
ça livres. Fait passer à l'automne, ça, série mondiale, là, les Astros en série mondiale. Là, après ça, dans les Astros, il y a un gars de... Ah, il n'est pas de Joliette, un peu, il était de l'autre bord de Montréal. Abraham Taureau est un Québécois, il était en série mondiale. Fait que là, je sais que sur eBay, ramasse sa carte autographiée, est numérotée 1 sur 1. Fait que je la paye quand même 100$. Mais tu sais, pour un Québécois, je suis bien content de l'avoir. Après ça, je vois un peu ce qui se passe dans le marché. Mais la foutue 1 sur 1, c'est fucking moins qu'il l'a. Si quelqu'un la veut ou qu'il collectionne une collection privée d'Abraham Taureau, il manque cette fameuse 1 sur 1.
Maudit. Il y a une carte seulement.
Oui, c'est moins qu'il l'a.
C'est bizarre ça qu'il fait juste une carte. En plus.
Oui, ouais, ça arrive une fois de temps en temps. Ça arrive pas de temps en temps. Quasiment dans chaque série, ça peut arriver. Mais quand tu as la 1 sur 1, tu as le contrôle. Fait, je suis pas pressé. Je vais attendre que la saison recommence. Si les Astros retournent en playoffs, si Taureau a une bonne saison, le 100$ deviendra probablement 500 ou 1000$ en un an. C'est des histoires de même. C'est juste du positif. Là.
Oh oui, surtout des 1 sur 1.
Puis tu veux pas faire du hold comme avec le Bitcoin? Je le garde pour toujours, puis maintenant, elle va valoir 100 000, non?
J'ai jamais pensé à ça. Non, non c'est trop rapide et actuel depuis 2 ans dans les cartes.
Mais
c'est
drôle que tu me dises ça. Que ça souffle et que tu perds tout. Hein.
Moi, j'ai jamais, à part, mettons, si je pogne une bonne vieille Bobby Orr recrue, ça probablement, je la garderais, tu la gardes. Mais tout ce qui se passe dans le actuel... La vérité, les chances qu'Abraham Taureau batte les records de Barry Bonds sont très bas. Fait que, tu sais, ça reste de même. Mais bonne question, par exemple. Je garde très peu de cartes longtemps. Non?
Mais ça te permet, en les retradant même, ça te permet d'avoir Si tu gardes toutes tes cartes, Monique, Chris, tu vas prendre où le cash pour en acheter d'autres, là, tu sais?
Ouais. Exactement.
Ça va être de l'autre l'argent pour que tu aurais peut-être placé pour tes vieux jours. Dans ce cas-là, mais en roulant tes cartes, mais ça te permet de faire d'autres transactions. Ouais. Pis,
Des fois, c'était la semaine passée. Ben, les deux dernières semaines, je vendais du basket pour financer mon football. Tu sais, ça fait runner la patente. Je me fais des nouveaux copains dans le domaine. Tu sais, mais tu sais, de perdre de l'argent, c'est en site d'un carte, là, faut être un petit peu malchanceux ou pas bon. Le marché, c'est fou. Là. Je niaise pas. Là. Les 10% par semaine, ça arrive vraiment, vraiment souvent. Vraiment souvent. Oh, c'est ça qui arrive, c'est en site. Puis,
bon,
tu vois, il y a des bons joueurs. Spot Suzuki, puis KK, puis t'es safe.
Il va falloir que je m'y mette, là.
Ouais, c'est sûr que toi, tu pars là-dedans.
Comme si j'avais le temps.
Il va se mettre à t'écrire, il va te poser des questions. C'est
parti. C'est maladif. Là. Fais attention aussi.
Oh, il a de la facilité d'être malade dans ces affaires-là. Fait que...
T'aurais dû garder ton bitcoin.
Non, j'en ai encore. J'en ai encore.
Yes. Hey, on vient faire pas mal d'une heure. Hein?
Avec la musique et tout, là, on dépasse l'heure. Là. 58 minutes.
Vous êtes bien, Sybat, tout le temps un plaisir. Puis, en tout cas, on s'en rejase, c'est certain. Parce que si on s'en reparle plus jamais, ça serait fucké.
Ça serait triste.
Oui, c'est clair.
Quand tu vas vendre ta Barry Bonds, là, je me sais plus du nom du gars, Abraham. Là.
Abraham Toro, ouais.
Un million, là, on fait un autre podcast.
Ouais. Si jamais vous voyez un gars en raquette tout nu en bosse, c'est pas moi. C'est le king de Saint-Georges là-bas qui est en train de faire ça.
Il peuple tous les ruminants de tous les villages de Chaudière-Appalaches.
Yes, allez, merci beaucoup, Marteau.
Salut, mes chums. Salut,
yes, salut.
Merci, Marteau. We'll be right back.
Le prochain podcast est une présentation de Bull Bitcoin. Bull Bitcoin, l'entreprise Bitcoin la plus fiable au Canada depuis 2013, est entièrement autofinancée, dirigée et opérée par des militants incorruptibles pour les droits individuels et la liberté d'expression. Rendez-vous sur mission.bullbitcoin.com/PDG dès aujourd'hui et entamez la création de votre compte. Si vous avez de la difficulté à ouvrir votre compte, pas de problème, contactez l'équipe d'assistance de Bull Bitcoin, la meilleure de l'industrie, à tout moment du processus pour demander de l'aide. En utilisant notre lien, vous aurez un bonus de 20$ juste en ouvrant votre compte. Avec Bull Bitcoin, prenez le contrôle de votre argent.
Salut la gang, c'est le moment de vous parler de béton sans son. C'est quoi ça, béton sans son? Béton sans son, c'est du levage de béton avec une mousse polyuréthane. C'est une mousse pour faire lever les dalles ou combler les vides avant qu'elles s'affaissent. C'est qui peut utiliser ça? Ben c'est n'importe qui ont des dalles de béton chez eux, ou un commerce. C'est quoi les avantages de l'injection de la résine polyuréthane? Bon ben c'est abordable, c'est une solution qui est permanente, c'est une action rapide, c'est non invasif, donc c'est assez localisé où est-ce qu'ils vont le mettre. C'est respectueux de l'environnement, les matériaux, ça réagit pas avec le sol, ça libère aucun produit chimique nocif non plus. C'est léger et solide, c'est étanche. On peut utiliser ce où? Sur les trottoirs, les planchers de sous-sol, les allées, les semelles, les patios, les garages, les contours de piscine, les planchers d'entrepôt, partout où est-ce qu'il y a du béton. Alors, si vous avez besoin de levage de béton chez vous, dans votre commerce, votre voisin, il est tanné de vous enfarger dans ses escaliers quand vous allez le voir. Dites-leur de contacter Béton Sanson parce que Béton Sanson, c'est LE spécialiste du béton.